Bonjour à tous. À 12h55, dans votre grande table des idées, la psychanalyste Muriel Flistrève, qui a co-dirigé au PUF Intimité en danger. Pourquoi sommes-nous en train de renoncer de nous-mêmes à cet espace à soi, l'intimité que nous avons mis tant d'années à arracher aux mains des pouvoirs institués? La question lui sera posée dans la deuxième partie de l'émission, après le journal de Thomas Cluzel. Mais d'abord, une étoile filante. À 42 ans, le danseur étoile Karl Paquette a fait avant-hier ses adieux à la scène de l'Opéra de Paris. À l'issue de la représentation de Cendrillon, le ballet de Nureyev sur une musique de Prokofiev, où il incarnait l'acteur vedette aux côtés de Valentine Colasanto. Karl Paquette est notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Karl Paquette, bonjour.
Bonjour.
Alors voilà.
On y est.
Ça y est.
C'est l'après.
Bon. Et ça commence comment?
C'est très émouvant, je dois avouer. Je ne me rendais pas compte à quel point, finalement, ça fait surgir tant d'émotions, des joies, des pleurs, ça c'est sûr. Mais c'est une nouvelle vie qui commence. Pour l'instant, je ne me suis pas encore préparé, mais ça va venir.
Le 31 au soir, juste avant minuit, avant une pluie d'étoiles et l'ovation du public, le dernier geste aura été celui-là. Vous avez élevé votre partenaire dans les airs, entouré d'un voile blanc. Quelques minutes auparavant, la représentation de Cendrillon se terminait sur ce duo de l'acteur vedette, vous, avec la nouvelle actrice star, dans la vie comme à l'écran, Happy End. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là?
Voilà, c'est tout le dernier pas de deux. Et en même temps, d'écouter la musique, ça me rappelait combien j'ai, en faisant le choix de Cendrillon, j'ai visualisé ce dernier grand pas de deux, en fait, comme dernière image de fin. Je trouvais toujours que ce ballet terminait tellement bien. C'était magique avec ce grand ventilateur, ce voile, cette image de décor hollywoodien. C'était l'image dont je rêvais finalement pour le clap de fin. Et là, d'entendre le dernier grand pas de deux, cette musique de Prokofiev est quand même somptueuse. Je trouve que ça me remet dans le moment, en tout cas, du 31 décembre.
Et le 31, en le réalisant, vous aviez ça en tête, dernier pas, dernier geste?
Oui, il y a forcément la dernière image qu'on veut donner. Après, c'était surtout un spectacle. Je trouvais que Cendrillon est une histoire quand même qui parle à tout le monde. C'est un conte de fées, c'est un rêve d'enfant. Je me considère pas si vieux que ça, donc c'était pour moi aussi symbolique. Et c'était sympa d'être tous ensemble, de festoyer sur ce dernier spectacle. C'est pas juste un adieu, c'est aussi un spectacle avant tout. C'est une ambiance, c'est 25 ans de carrière que je voulais, en tout cas, dont je voulais participer avec la compagnie.
Et c'est extrêmement émouvant, l'ovation, la révérence, le salut au public, ce dernier regard vers la salle, Bastille, plutôt que Garnier pour cette fois. Combien de fois vous l'avez salué, ce public, dans votre vie de danseur?
Mais c'est la première fois que c'est de cette manière que je l'ai reçu finalement. Ça a commencé très chaleureusement, je dois avouer, à mon entrée en scène. Ça fait chaud au cœur de savoir que finalement le public était venu aussi pour Cendrillon, mais pour mes adieux. Et le dernier salut, il a duré très longtemps, plus longtemps que je n'aurais imaginé. Et en même temps, ça passe tellement vite. on s'aperçoit qu'on rentre chez soi finalement à pas d'heure et que la soirée est déjà terminée. Donc,
L'acteur vedette, c'était vous en fait, hein, pour de vrai.
On a essayé en tout cas.
30 ans de maison, si on compte vos années, à l'école de danse de l'Opéra de Paris, Karl Paquette, une institution, l'opéra, qu'on admire et qu'on redoute aussi, à raison.
Non, au contraire, c'est une maison fantastique avec des moyens exceptionnels, qui lève le rideau quasiment tous les jours, donc il faut au contraire être reconnaissant d'une maison qui fait vivre tant d'artistes, tant de gens passionnés. Et au contraire, c'est une maison qui mérite qu'on la regarde de près.
Sur cette retraite à 42 ans, retraite de l'Opéra de Paris, parce que c'est pas la fin de votre vie, Karl Paquette, et on va y venir, vous dites souvent, on sait qu'on ne pourra pas éternellement repousser l'échéance. Ça, c'est le corps qui parle.
Alors le corps parle pour certains plus que d'autres. Je dois avouer que j'ai quand même eu la chance d'être assez préservé toute ma carrière, qu'aujourd'hui je me sentais finalement encore en forme. Certes 42 ans, mais encore en forme pour danser un grand classique comme Cendrillon. L'institution veut qu'à 42 ans aujourd'hui on s'arrête et il faut de toute façon mettre des limites. Certaines compagnies en France n'ont pas de limite d'âge, donc c'est plus dur après pour une compagnie de faire danser des danseurs à 55 ans parce que c'est une réalité. On est quand même des sportifs de haut niveau. Le corps, il dit stop à un moment donné, donc il faut mettre une limite. J'ai toujours été convaincu que la jeunesse, c'était assez porteur et qu'il fallait aussi se servir de cette fougue et de cette jeunesse pour renouveler un effectif. C'est le cas à l'opéra, c'est éternel. Chaque année, il y a ce renouveau et c'est ça qui nous fait aussi porter le niveau de cette compagnie.
On se représente mal ce que ça veut dire en termes d'endurance quand vous dites porter un grand classique à 40 ans, c'est très physique.
C'est physique
en
parce qu'il y a, c'est quand même deux ou trois actes, c'est deux heures de danse et pour ça, bah, c'est un travail d'un mois, un mois et demi quotidien, de répétition et quand c'est dur, il faut savoir aussi passer au-dessus pour justement acquérir. En scène, en fait, on est voué avec une adrénaline, un stress qui génère aussi une tension plus importante qu'une répétition. Donc il faut être prêt à ça. On peut pas, pendant un spectacle, s'arrêter et montrer en tout cas les faiblesses du danseur ou du problème à ce moment-là. Donc il faut être serein et prêt, largement prêt pour assumer un classique. Et le corps, à 42 ans, c'est une réalité, et moins fiable en tout cas qu'à 25.
On dit de vous, Karl Paquette, que vous êtes une force de la nature, rarement blessée tout au long de votre parcours, de votre carrière, remplaçant aux débeautés de danseurs qui ont dû abandonner, qui n'ont pas pu réaliser une représentation à cause d'une blessure qui est arrivée. Même parfois, ça vous est arrivé de remplacer en cours de route, en cours de représentation, un danseur qui s'est blessé.
Oui, c'est toujours un challenge. C'est ce qui m'a aussi permis de progresser, je pense. On est tous différents. Je me suis jamais senti le danseur né avec les qualités absolues du stéréotype du danseur de l'Opéra de Paris avec des jolis pieds, des jolies lignes, comme on le voulait. On m'a toujours rappelé ça, finalement.
C'est pas vous, ça?
Non, et en même temps, ça me va très bien. J'ai appris aussi à avoir les qualités de ses défauts et défauts des qualités. Il faut prendre son parti. Et en contrepartie, ça m'a fait prendre conscience que très jeune, il fallait que je travaille. Peut-être plus que les autres, c'est pas très grave. J'aime le travail, donc c'est pas un problème pour moi. Et le travail paye, et en l'occurrence, ça m'a servi, parce que les années de remplacement, c'était moi qui étais en scène finalement, et c'est moi qui profitais de ces moments de grâce.
Mais ça veut dire que vous connaissez tous les rôles? Vous les avez tous travaillés déjà, avant? Vous les aviez travaillés à l'école de danse?
Alors, pas forcément, mais c'est vrai que quand je suis rentré en corps de ballet, j'ai fait 7 années de corps de ballet où j'ai finalement dansé que des rôles de corps de ballet. J'avais le temps de regarder les étoiles, les solistes, travailler leurs rôles. Et quand on connaît sa place, on a le temps d'apprendre les autres. Donc, quand j'ai pu accéder à ces rôles-là, ça m'a permis sereinement d'accélérer le travail et d'être plus rapidement prêt pour la chorégraphie, en tout cas. C'est des petits avantages qu'on peut avoir de temps en temps.
Et depuis quelques années, c'est vous que les jeunes danseurs du corps de ballet regardent dans ces rôles d'étoiles que vous avez pu occuper. La force de votre physique, ou en tout cas la particularité, quand vous dites atypique, qu'est-ce qu'il y avait de si différent? C'est quoi le corps typique d'un danseur étoile de l'Opéra de Paris?
Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un truc typique. Moi, pour moi, je considérais que le stéréotype de l'opéra, c'était d'avoir ces lignes pures. Je me suis jamais vu comme ça, et en même temps, peut-être que on fait évoluer aussi le style par les personnalités qui y sont passées. Donc tant mieux. Moi, j'espère avoir insufflé en tout cas cette passion de la danse, cette vertu du travail, qui sont les éléments indispensables, ingrédients pour une réussite en tout cas.
C'est un danseur comme Hugo Marchand qui nous disait qu'il a été nommé étoile très jeune aussi parce qu'il était très grand et que c'était compliqué pour lui d'avoir des rôles dans le corps de ballet. Sa tête dépassait toujours, donc soit il devenait étoile, soit à un moment il partait.
Bah, tant mieux pour lui, ça c'est
parfois
vrai que c'est une chance d'être nommé jeune. Ouais. Après moi j'ai été nommé à 33 ans.
C'est vieux ?
C'est l'âge du Christ quand il est mort, je sais pas si c'est vieux, mais pour ma part, c'était le bon moment. J'avais la sensation, en tout cas, que c'était un cadeau déjà qu'on me faisait, parce que j'attendais rien à ce moment-là, et que j'étais prêt, en tout cas, à recevoir une charge de travail supplémentaire, parce que je m'apercevais tout d'un coup que on travaillait mieux en tant qu'étoile. Moi, premier danseur pendant 8 ans, ça a été beaucoup de scènes, ce qui m'a permis justement, en tout cas, d'être serein. D'aborder en tout cas que des premiers rôles après.
Quand on vous parle d'avenir, vous dites transmission. Vous qui avez fait vos classes à l'école de danse de l'Opéra de Paris, débuté au studio de Max Bozzoni, gardien du temple d'une certaine manière. Écoutez ce qu'il disait à propos des danseurs étoiles.
Les garçons en général, il y en a moins. Oui. Alors ils sont déjà sélectionnés un petit peu. Alors en général, ils sont très bien. Les filles... Il y a des grandes danseuses et puis il y en a d'autres qui n'arrivent pas à passer. Tandis que là, en général, il y en a 2 ou 3 très bien. On les a vus déjà dans le deuxième quadrille, on les a vus corriger, on les a vus sujets et ça que s'améliore en général. On a moins de pas à faire quand même, les garçons. Il y a les pointes qui sont terribles pour nous. Je ne sais pas, les garçons, ce qu'on ferait avec nos pointes. Hein. Et on n'y tient pas, d'ailleurs, à faire des pointes. Mais les filles ont tout de même ce travail qui est très, très difficile sur les pointes. Il y a des filles qui échouent complètement parce qu'elles ne peuvent pas monter sur les pointes.
Quelle est la particularité d'un danseur homme ?
Non, mais là, c'est émouvant d'entendre Max Bozzoni parler parce que c'est quand même toute mon enfance. C'était tous les cours de danse et parfois il prenait le temps aussi de nous parler de la vie, nous parler de certaines choses et ça forge le caractère. Et c'est très émouvant de l'entendre parler. Pardon, désolé d'avoir coupé.
Non, mais je vous en prie. C'était aussi pour le réentendre et réentendre sa voix qu'on voulait vous le faire écouter puisque vous avez commencé en partie avec lui, Karl Paquette. Quelle est pour vous la vraie particularité des danseurs garçons ?
Aujourd'hui, un danseur garçon, il doit être... polyvalent, dans le sens où on doit avoir une possibilité de danser avec un maximum de partenaires. Je pense que les physiques évoluent, les physiques des danseuses, on a des grandes, des petites, donc le plus on a un panel de partenaires et le mieux c'est, ça c'est sûr. On a cette chance, c'est vrai qu'il disait, nous on travaille pas les pointes, je pense que c'est un vrai travail que je n'ai jamais fait et tant mieux pour moi, je me suis toujours dit que si j'avais eu des enfants et des filles et qu'elles avaient voulu faire de la danse, je ne sais pas quelle aurait été ma réaction par rapport à ça, en tout cas au travail de pointe que je trouve très difficile, très délicat parce que il y a beaucoup plus de compétition, beaucoup plus de concurrence là-dessus et un garçon finalement aujourd'hui s'il a une vraie personnalité en scène, ça ressort et ça lui permet en tout cas de franchir les étapes.
Vous n'avez pas eu de filles, vous avez eu des garçons ?
Il y a eu des garçons qui ne font pas de danse.
Et ils font du foot ?
Voilà, ils font du tennis, ils font du foot, ils sont passionnés de sport en général, et tant mieux, ça les défoule, j'aime bien.
Mais vous ne les avez pas poussés vers la danse ?
Non, j'ai toujours... j'ai pas poussé, je ne les ai pas non plus freinés, mais il n'y a pas eu de demande tant que ça. Et puis au fond de moi-même, je ne sais pas, il y avait une petite voix qui me disait être le fils d'eux, et je ne sais pas, J'ai toujours eu peur que ça soit mal vécu et du coup, bon, maintenant aujourd'hui, ils ont 10 ans, 11 ans et 8 ans, donc je suis pas sûr que ça se concrétise.
Et vous, quel a été le déclic la première fois que vous avez passé ou choisi de passer la porte d'une école, d'un studio de danse ?
En fait, j'ai plus trop de souvenirs de mon enfance. J'ai eu des parents fantastiques qui m'ont en tout cas amené à plein de choses, à la musique, au solfège, qui m'ont vraiment fait faire du judo aussi, de l'expression corporelle. Et puis là, le chemin s'est un peu trouvé tout seul. Je suis arrivé au conservatoire du 15e arrondissement. Et de là, ils ont convoqué mes parents pour leur dire, écoutez, votre enfant a peut-être du potentiel. Je suis arrivé chez Max Bozzoni et lui, il m'a dit, écoute, si tu viens à mon cours, de toute façon, c'est pour présenter l'opéra. Donc j'étais quand même, je pense, docile ou en tout cas dans la bonne voie. Et j'ai présenté l'école de danse. Je suis rentré à 10 ans. À l'époque, je rêvais tout autant de foot, de tennis. C'était pas forcément que passion danse. Et là, j'ai eu Claude Bessy, directrice de l'école, qui m'a aussi appris à aimer la danse, en fait. C'était une école fantastique, formatrice.
Être danseur étoile, Karl Paquette, c'est à la fois porter les rêves des plus jeunes, mais c'est aussi porter le travail des autres, des accessoiristes, des costumiers, des lumières, des musiciens qui sont aussi dans l'orchestre au moment où vous dansez. Vous avez conscience de ça quand vous êtes sur scène?
J'ai toujours pris conscience de ça, même quand j'étais corps de ballet. Je trouvais que je voyais qu'il y avait un travail qui était fait en coulisses, tous ces petites mains, on va dire, c'est pas péjoratif, au contraire, qui permettaient que le spectacle, que le rideau se lève tous les soirs. Donc j'ai toujours eu conscience de ça et qu'il fallait être respectueux des autres pour que les autres aussi le soient vis-à-vis de moi. Et même quand j'étais étoile, soliste, j'ai toujours pris conscience que si l'accessoire était bien placé en scène, c'était tout bénéfique pour moi aussi. Donc il fallait les remercier et j'en ai toujours pris conscience.
Quel est le costume, l'habit que vous avez préféré porter, celui dans lequel vous vous êtes senti le plus vous-même et au contraire celui que vous avez le plus détesté?
Je pense que comme tous les danseurs classiques, celui qu'on déteste le plus c'est le collant blanc parce que c'est le moins flatteur, c'est celui qui montre le plus ses défauts. Après, on va dire que le costume de Cendrillon, c'est un costume... tout doré, pantalon, bottes, ça, c'est beau. C'était bien pour finir, à mon âge en tout cas.
Mais il y en a eu des beaucoup plus baroques. Hein.
Ah, il y a eu tout.
Et du coup?
Il y a eu des costumes même, alors, très, très, très différents, comme Rod Bart par exemple. On va parler du Lac des Cygnes, où j'ai trois tenues dans la soirée. Et, c'est grandiose avec tout ce travail. Et quand on le voit de près, on s'aperçoit justement de tout ce travail qui est fait à la couture pour que le spectacle... en spectacle, en tout cas, le costume brille.
On dit que Nureyev, qui a été un directeur de ballet de l'Opéra de Paris, a beaucoup contribué à renforcer l'image et le statut des danseurs hommes. Et Maurice Béjart, c'était sur un ballet de Béjart, la 9e symphonie, que vous avez tenu votre premier rôle de soliste dans le corps de ballet. Écoutez Maurice Béjart.
Si je vois en 15 ans de boulot... Bon, il y a eu des périodes où j'ai dit, bon, la danse, j'en ai marre, les danseurs ci, les danseurs ça. Et j'ai poussé une pointe vers le théâtre, j'ai mis en scène des comédiens, j'ai poussé une pointe vers l'opéra, j'ai travaillé avec des chanteurs, j'ai essayé de faire un peu de cinéma, enfin j'ai essayé d'autre chose. Et chaque fois, je me suis rendu compte que je ne pouvais m'exprimer qu'avec les danseurs. Ce sont, je crois, vraiment des êtres privilégiés, et ce sont des êtres de notre époque, totalement. J'ai vu toutes les recherches de l'Actor Studio, j'ai travaillé un peu avec Grotowski, j'ai... eu une grande amitié avec les gens du Living Theatre, enfin j'ai participé à certaines recherches purement théâtrales. Mais tout ça, les danseurs, les vrais, hein, l'ont en eux. Et lorsqu'on voit Grotowski venir à une répétition de ballet, tout d'un coup il me dit, mais je découvre avec les danseurs ce que je cherche depuis des années avec les comédiens. Personnellement, je crois que ce sont vraiment les acteurs de notre époque. Pour moi, je dois dire que tout ce que je fais, je le dois aux danseurs, je le fais par les danseurs et pour les danseurs.
Et là, le Cendrillon de Nureyev est particulièrement expressif, c'est très théâtral ce rôle de l'acteur vedette. On est dans une version proche de la comédie musicale où le conte est transposé dans le Hollywood des années 30, où la marraine n'est plus fée, mais producteur de cinéma, celui qui peut transformer les rêves de notoriété en réalité. Cette partie, cette théâtralité du danseur, c'est ce qui vous a toujours le plus attiré?
Oui, complètement. Et surtout avec le temps, je trouvais que il fallait explorer de nouveaux horizons et ce genre de rôle porte même en soi tout court. C'est vrai que être en scène avant tout et de faire un personnage, c'est fantastique. On se mute pendant 2-3 heures dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est bien.
Ça nous permet de voyager. La deuxième vie, elle est pas là, Karl Paquette, le cinéma?
Non, je crois pas. J'ai toujours été timide en fait, même si certains le disent pas trop, mais à m'exprimer. Maurice Béjart m'a beaucoup aidé en tout cas à parler. Je me souviens, la première fois qu'on a travaillé vraiment ensemble, c'était sur un ballet qui s'appelait Le Concours. Et il voulait que je fasse le rôle du punk rocker. Et pour ça, il voulait refaire un peu le solo. Et il m'a dit, bah, voilà, prenez un micro et dansez et parlez en même temps. Il n'y a rien qui est sorti, mais rien. Et au bout d'un mois, finalement, de travail, et bah, j'ai réussi à danser et parler en même temps. Mais ça a été un vrai viol intérieur, en tout cas, de pouvoir sortir des mots à travers un micro dans une salle, c'était quelque chose de fort.
Vous pensez pas que la scène quelle qu'elle soit, que ce soit une scène d'opéra, de théâtre, c'est la métamorphose. Cette timidité, c'est celle que vous avez peut-être dans la vie, mais que vous n'aurez jamais sur scène.
Non, c'est...
Vous n'êtes pas quelqu'un d'autre sur scène.
Non, on est conditionné aussi. Je pense qu'on a bien travaillé toutes ces années pour, quand on arrive en scène, en tout cas, on sait ce qu'on a à faire. Et j'ai aucune appréhension, en tout cas, à aller en scène, quand je sais faire ce que je sais faire, en tout cas.
Notre invité jusqu'à midi et demi, le danseur étoile, on peut le dire encore, d'ailleurs.
Oui, il paraît que c'est un titre qu'on garde à vie.
Ouais, ouais, c'est comme les présidents. Le danseur étoile, Karl Paquette, est avec nous jusqu'à midi et demi.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Timide peut-être, mais dans les quatre tempéraments de Balanchine, vous étiez le sanguin et non le mélancolique, ni le flegmatique, ni le colérique. Ça vous allait bien ou c'était complètement à contre-emploi ?
Non, ça allait bien. J'ai toujours aimé aussi faire des contre-emplois et c'est intéressant de chercher en soi quelque chose de différent. Malgré ce qu'on voulait m'attribuer, le grand blond en scène, prince charmant, j'adorais les rôles de composition, les rôles plutôt noirs même. On va reparler de Rothbard, mais c'est vrai que c'est un rôle qui m'a particulièrement marqué et plu, d'être un personnage un peu maléfique, étrange en scène, ça m'a toujours plu.
Plutôt ça que le prince charmant, éternellement.
Non, après, le prince charmant, c'est flatteur, on va dire, mais on me l'attribuait depuis ma tendre enfance, quand j'avais 10 ans, c'était le petit blond, donc il fallait essayer de faire quelque chose de différent.
Alors, Rothbard ou Siegfried dans le lac des cygnes, des rôles, vous en avez occupé énormément, incarné beaucoup. Il en restera sûrement certains plus que d'autres. Est-ce qu'on peut essayer de voir ensemble, là, tout de suite, celui qui a été un des plus proches de ce que vous êtes, de Roméo et Juliette, de Onegin, où vous avez aussi été sur scène, l'Oiseau de feu, il y en a eu énormément.
Ouais, il y en a eu beaucoup. En fait... Chaque période de ma vie a aussi permis d'avoir le loisir et le plaisir de danser certains rôles. Je garde pas un rôle finalement en mémoire. Si je devais en garder un, je pense que ça serait le dernier finalement, ça serait Cendrillon, parce que là l'émotion est la plus forte. Et j'ai aimé en fait chaque période de ma vie les rôles qui m'ont amené à danser à ce moment-là. Quand j'ai fait pour la première fois Roméo, ça a été fantastique. Ça a été tout d'un coup danser une tragédie en scène. Nourieff avait dit sur ce ballet que c'était tellement dur son premier acte qu'à un moment donné, quand il n'y a plus d'énergie, seule l'émotion finalement sort. Et c'était vrai. J'ai le souvenir, pour le coup, d'aller en scène et de me dire « Mais est-ce que je vais finir ce ballet ?» Oui, en même temps, on meurt en scène. Donc ça tombait bien, mais ça a été un grand moment et ça a été une découverte. Et aujourd'hui... Je ne vis plus les Roméo de la même manière parce que j'ai plus l'âge de danser Roméo. Donc c'est bien aussi, il y a toute une évolution dans une carrière de danseur qui fait que on ne danse pas Onegin à 20 ans comme on le dansera à 35 ans. Et inversement, il y a des âges aussi pour certains rôles et c'est bien. Ça permet une évolution et de ne pas danser pendant 25 ans le même ballet et d'avoir une évolution de carrière, ça c'est évident.
Alors quand on est danseur, il y a la technique bien sûr et les valeurs, celles que vous avez pu défendre et l'émotion que vous venez de citer. Écoutez à ce sujet Mikhaïl Baryshnikov.
Il y a eu des moments. Il n'y a pas de fin à la perfection, c'est l'infini. Il faut être modeste dans nos tentatives. Mais il y a certaines choses qui nous satisfont plus que d'autres. Vous avez ressenti quelque chose au fond de vous, quelque chose qui vous a ému, qui vous a fait aller dans cette direction de l'idée émise par d'autres. Parce que moi, je suis danseur, je ne suis pas chorégraphe, je dois interpréter, ou alors je suis un acteur qui interprète les indications du metteur en scène. Ils me font confiance. Ils m'ont fait confiance, je dois parler au passé maintenant. Et j'ai eu de la chance.
Alors ils vous ont fait confiance aussi à vous, Karl Paquette. La place de l'émotion centrale quand on occupe un rôle, vous diriez comme Baryshnikov.
Non mais c'est un vrai génie lui, c'est un modèle pour tous. En tout cas, moi ça a été un vrai leitmotiv toutes ces années de le voir évoluer. Je me souviens d'un spectacle où je dansais le rôle de Kourbski dans Ivan le Terrible Et ce jour-là, il était dans la salle. C'était une représentation qui était filmée. Donc, pour un DVD, j'étais plus, entre guillemets, stressé de me dire qu'il y avait Baryshnikov dans la salle que 15 caméras sur nous, en fait.
Donc, le rôle de Kourbski que vous avez dansé aussi dans Ivan le Terrible. Mais qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? C'était quoi sa part de génie? C'était un très bon danseur, mais surtout une personnalité, un charisme.
C'était un acteur hors norme. C'était avec un charisme hallucinant, parce que même aujourd'hui, ça m'arrive de le recroiser. Et il a, je sais pas, 60 et quelques années. Et il a une aura encore hallucinante. Et c'est ça aussi, ça, c'est les grands. Et qui ont fait réellement évoluer la danse avec eux. Parce qu'il a su élever le niveau technique de toute la génération, en fait.
En 20 ans, un peu plus même, hein, de carrière, vous avez croisé des grands noms à la fois de la danse. Vous citez souvent Nicolas Le Riche, qui a été proche de vous, et des chorégraphes importants, parmi lesquels ceux auxquels vous souhaiteriez rendre un hommage, là, maintenant. Vous parlez souvent de José Martinez, qui était la seule étoile espagnole au sein du Ballet de l'Opéra de Paris, qui dirige la Compagnie Nationale de Danse espagnole.
José, hein, ça a été un vrai mentor, parce que quand je suis rentré dans la compagnie. Lui-même était, je crois, déjà premier danseur et il m'a vraiment pris sous son aile, il m'a vraiment fait travailler, il m'a emmené à droite, à gauche, danser sur des scènes, il m'a suivi pendant énormément d'années, ça en parallèle de sa propre carrière et je pense qu'aujourd'hui j'ai appris beaucoup de mon métier, de comment être en scène, de comprendre comment se fait un spectacle, c'était grâce à lui. Et si j'ai vraiment été étoile, ça a été en tout cas en grande partie grâce à lui. Il y en a eu d'autres, hein. Attilio Labisse, quand je suis entré dans la compagnie, en tout cas a été un professeur qui m'a appris une autre technique de danse. J'ai tout d'un coup redécouvert qu'on pouvait aller encore plus loin dans la technique tout court. Et il avait dit une chose très juste que j'ai dit pour mon discours, mais c'est vrai, c'est important. La technique, c'est l'artistique, c'est 90% de technique. Et c'est tellement vrai.
Il y a des fois où vous avez eu envie de pousser les portes de l'Opéra de Paris, de les franchir, de vous enfuir, de vous échapper. C'est une très belle maison, mais c'est quand même un lieu où on peut se sentir parfois un peu enfermé.
J'ai franchi les portes, je suis parti, j'ai dansé à travers les quatre coins du monde. Mais je suis toujours revenu parce que c'est une belle maison que j'ai toujours aimée, que j'ai toujours voulu défendre. Et j'ai eu cette chance, en tout cas, de m'enrichir des autres compagnies. Je suis dansé en Russie, en Mongolie, au Kazakhstan,
Japon.
Au Japon.
Avez un sacré public qui était là d'ailleurs le 31
Certes,
au soir.
Certes, hein. C'est vrai. Et ça enrichit et ça permet en tout cas d'avoir son propre jugement en tout cas sur notre métier et notre évolution en tout cas.
Donc demain, l'enseignement, la chorégraphie.
Avec grand plaisir, maître l'enseignement, la transmission. J'ai un vrai désir de transmettre aux jeunes. Je le fais depuis quelques années déjà. Je trouve que c'est eux qui ont les clés de notre avenir, donc il faut en prendre soin.
Merci beaucoup à vous, Karl Paquette, d'être venu autour de cette grande
Avec
table.
Avec grand plaisir.
Et que cette nouvelle vie vous soit aussi remplie d'étoiles. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.